Bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués. Soyez tous les bienvenus dans le Seigneur. Prions ensemble. Père, oui, que ta lumière soit au milieu de nous ce matin. Nous avons besoin de cet éclairage et ta parole est un bon éclairage, Seigneur. C'est une lampe à nos pieds et nous ne voulons pas marcher dessus, mais nous voulons vraiment la suivre. Et nous te demandons que ce matin, cette lumière soit puissante par ton Esprit Saint et qu'elle nous trace un chemin dans ce monde chaotique. Tu es bon pour nous et nous voulons être à tes pieds, Maître. Amen. Alors, j'avais prévu autre chose d'abord. J'en ai parlé à quelques-uns, donc ce sera pour une autre fois. Et donc, ce matin, je vous propose de lire dans Matthieu 12, les versets 22 à 30. Alors, on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée et disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. » Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Tout au long du chapitre 12 de Matthieu, Jésus est à l'œuvre pour révéler le royaume de Dieu. Révéler que le royaume de Dieu est venu vers vous, c'est ce qu'il a dit. Là, on vient de le lire. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Plusieurs fois dans la parole, c'est mentionné. Et Jésus veut le montrer. Il annonce la liberté. Les épis de blé, pendant tout le chapitre, Jésus fait des miracles et remet aussi des choses en question. Donc, au début du chapitre, c'est les disciples qui arrachent des épis de blé et qui mangent du blé un jour de sabbat, au sacrilège. Il guérit un homme qui a la main sèche dans la synagogue un jour de sabbat. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Pour certains, c'était choquant. Par de multiples guérisons et miracles, il atteste qu'il est le serviteur que Dieu a choisi. Selon Ésaïe 42, les versets 1 à 4, et on peut lire ce passage dans Matthieu 12, les versets 18 à 21. Voici ce que dit Ésaïe, ce que dit Dieu au travers d'Ésaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il ne brisera pas le roseau cassé, il ne va pas achever quelque chose qui est blessé, il ne va pas souffler encore pour éteindre ou mettre de l'eau sur une mèche qui fume encore. Il va plutôt souffler de son esprit pour y mettre de la vie. Ça, c'est le serviteur que Dieu envoie. Et donc, ici, dans ce contexte, nous arrivons à ce passage que nous avons lu ensemble. Imaginez l'attroupement. Quand je pense à cet épisode avec ce démoniaque, pour moi, c'est un ciel gris et vraiment les ténèbres qui environnent tout. Imaginez un instant un attroupement, une foule rassemblée autour de Jésus et soudain grand silence. On vient avec un démoniaque aveugle et mort. Muet. Un cas désespéré. Qui pourrait soulager, libérer un tel homme? Cet homme, humainement, est condamné à finir sa vie, isolé dans les ténèbres, dans le silence de mort, car un démon le tient prisonnier. On ne peut rien y faire, n'est-ce pas? On ne peut rien y changer. Et on l'amène à Jésus. Le peuple ne peut qu'accepter cette situation. Et quelqu'un l'amène à Jésus. Et si c'était possible? Et il le fait. Libéré, voyant et parlant. Un homme, sur une parole de Jésus, peut-être sur un geste de Jésus, complètement libéré. Dans Ésaïe 35, les versets 4 à 6, il est dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Imaginez ce que cet homme vient de vivre. Il n'a jamais entendu un son, peut-être jamais, je ne sais pas. Il n'est pas dit qu'il était muet ou sourd de naissance, mais il était dans une situation, il n'entendait plus rien. Il ne voyait plus rien et les puissances du mal le tenaient. Et personne qui puisse le soulager. Peut-être ses proches qui pouvaient juste l'assister un peu avec tremblement. La foule, voyant l'œuvre de libération et de guérison de Jésus, commence à discerner l'identité de ce dernier, le fils de David, celui qui doit venir délivrer Israël. C'est ça. Plusieurs fois, Jésus est interpellé comme ça. Fils de David, aie pitié. Il y avait une promesse sur un fils de David qui viendrait libérer le peuple. Celui qui doit venir pour délivrer Israël. Ici, une délivrance fantastique. Alors là, c'en est trop pour les gardiens de la loi. Ils sont là, depuis le début de cette série de guérisons, du chapitre 12. Tes disciples ne font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, leur répond Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Si ta brebis tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne la retires-tu pas? Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et chaque fois, ils sont derrière et remettent en question ce que Jésus est en train de faire ou ses disciples. Eux se consultent sur les moyens de le faire périr, au verset 14 du chapitre 12. Ils se retirent pour se consulter comment on va l'éliminer celui-là. C'est la sommité de la religiosité en Israël de l'époque. Quelle noble motivation au nom de la loi. Il faut le faire disparaître, il dérange. Le peuple, suite à la libération et à la guérison du démoniaque aveugle et muet, comprend que Dieu les visite. Les pharisiens qui sont là sont vraiment de mauvaise foi, accusent Jésus d'être serviteur de Belzébul, le prince des démons. Il chasse les démons au nom avec la force du prince des démons. C'est contradictoire, mais ils sont vraiment de mauvaise foi. Il faut trouver une excuse pour ne pas dire « voyez la gloire de Dieu ». Il l'accuse de travailler avec cette puissance occulte. Lui, la lumière du monde, serait un serviteur de Satan, l'ange de lumière déchu. Lucifer, c'est l'ange de lumière qui a chuté. Et Jésus serait donc Le prince de la lumière serait au service de Lucifer. C'est grotesque. Et on sait que l'ange de lumière a fait chuter l'humanité dans sa chute, qu'il l'a entraînée. Les pharisiens auraient dû être les premiers à reconnaître en Jésus le salut annoncé par les Écritures. Ils avaient toutes les notions. Le peuple avait quelques bribes de la parole. Eux, ils l'étudiaient. Rien que quand Jésus est venu au monde, à Jérusalem, on a tout de suite demandé aux scribes, regardez dans les Écritures, où doit naître le roi des Juifs? Et il a été dit à Bethléem. Ils avaient tout, mais ils sont quand même ligués avec les autorités civiles pour le faire disparaître rien qu'en étant un petit enfant. C'était déjà de la mauvaise foi. Mais qu'est-ce qui cloche chez ces pharisiens? Comment peut-on en arriver là? Toujours à l'affût pour le prendre en défaut, démontrer qu'il ne peut pas être le Christ. C'est une obsession chez eux. Il n'est pas comme eux. Ça dérange. Il n'a pas fait leur école aussi. Pendant des siècles, ils ont peaufiné les règles. Lui annonce la liberté. Chaque fois, on rajoutait encore des règles. Jésus leur a dit, vous aviez la loi, mais vous en avez rajouté des choses. Il ne faut pas faire ceci, laver les mains, les pieds, comme ça, pour cette occasion. Ils ont mis de belles règles en place que eux-mêmes souvent ne suivaient pas. Eux traquent le mal partout. Les vices de forme, lui, savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Il a dit qu'il ne se faisait jamais d'illusions. Quand il parlait aux gens, il savait, même tout le peuple, il savait ce qui était dans le cœur et qu'il n'y avait rien de bon. Mais il ne traquait pas cela. Il était venu pour le tirer de là. Il savait que le besoin de l'homme était le pardon. Pas des petits changements positifs. Il parlait avec amour et avec autorité. Quand lui, il parlait, les gens, ils étaient stupéfaits. Ils ne parlaient pas comme les pharisiens, comme ceux qui ont étudié la loi. Ils parlaient avec l'autorité de Dieu. Et sa parole était suivie des faits. Ses paroles étaient certifiées par des actes, comme ici. Eux étaient pleins de connaissances et de règles. Lui était proche du peuple, là où eux étaient au-dessus des autres, inaccessibles. C'était leur caste. Ils méprisaient même le peuple. Si on voulait entrer chez eux, Jésus a dit, si vous faites des disciples, vous les faites pire que ce que vous êtes vous-même. C'était vraiment une caste au-dessus. Et le peuple avait parfois peur d'eux. La loi les rendait froids et distants. L'amour le rendait proche et chaleureux. Chez combien de personnes qu'il est entré où jamais un pharisien n'aurait mis les pieds. Et Jésus a osé entrer parce qu'il voulait amener le salut. Zachée, il est allé vers la Samaritaine, il est allé vers des gens de mauvaise vie avec le désir de les arracher à cette vie. L'amour le rendait proche et chaleureux. Et dans la parole, il dit, c'est au fruit que l'on reconnaît un bon arbre. Et Jésus avait vraiment du bon fruit. Jésus s'est aussi soucié du salut des pharisiens. Il ne les a pas méprisés. Plus d'une fois, il a envoyé des personnes guéries par sa puissance, se montrer au sacrificateur pour qu'il puisse constater la guérison. Va te montrer en Matthieu 8, 4, va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Il voulait les arracher de leur attitude pour les libérer aussi. Que cela leur serve de témoignage. Ils n'avaient pas besoin d'eux pour que la guérison soit totale. Ils voulaient juste qu'ils constatent. Voilà. C'est l'œuvre du Fils de Dieu, de Dieu, c'est l'œuvre du serviteur de Ésaïe. Eux le considéraient comme un ennemi à battre. Lui les voyait comme des aveugles à libérer, à sauver. Lui, pour eux, un objectif, se défaire de ce gêneur. Et lui, il voulait qu'il y ait la vie. Face aux accusations d'être un agent de Satan, qui chasse les démons avec des pouvoirs occultes, Jésus démontre l'absurdité de leur raisonnement. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Quand on voit un peu ce qui se passe tout au sommet de notre État et aussi à tous les niveaux, il y a de la division. Il n'y a pas de pas vers l'autre. Il y a de la division. On campe sur ses positions. Et ça, c'est l'œuvre du diviseur. Le diviseur par excellence, c'est Satan. Il a réussi à séparer Ève et Adam de l'harmonie avec Dieu. Juste avec quelques soupçons. Instiller le doute. Par la ruse, il a poussé l'homme à vouloir quitter sa fonction de gestionnaire de la création. Il avait une grande fonction. Il devait gérer la création. Il pouvait nommer les animaux. Il pouvait soigner. Il pouvait se nourrir de tout ce qui était à sa disposition. C'était un gestionnaire, un gérant. Et il a voulu quitter, Satan l'a poussé à quitter cette fonction de la création pour en devenir le propriétaire. C'est à moi. Je gère comme moi je veux. Dieu n'a plus rien à dire. Depuis, on a fait mieux, on a dit que Dieu n'a jamais créé, Dieu n'a jamais fait cela, tout ça, c'est le hasard. Et maintenant, nous, on se l'approprie et on améliore encore. Et c'est la rupture de l'harmonie parfaite en Éden. L'homme se retrouve dans le chaos du monde, soumis aux dangers, aux aléas climatiques, aux mauvaises herbes, il a dit, les ronces couvriront la terre, aux rongeurs, aux maladies, à la mort. Il est sorti de ce que Dieu avait prévu pour lui, et depuis, il est devenu l'ennemi de l'homme même. Et ça s'est fait très vite, hein. Caïn, Abel, ça a démarré très très vite, parce que son orgueil, ses prétentions sont allées plus loin. Dans son cœur, il porte encore la pensée de l'éternité, harmonieuse, le souvenir d'un endroit parfait dans la présence de quelqu'un qu'il aime et qui peut l'aider à retrouver la paix qui lui échappe toujours à nouveau. Dans la pensée de l'homme, il y a tout au fond, et on peut essayer de le refouler, il y a encore cette pensée d'éternité et aussi que ce n'est pas possible. Ces maladies, ces guerres, tout cela, ça ne peut pas être le bon plan. Mais la route est coupée. Il cherche la présence de quelqu'un qu'il aime, qui peut l'aider à retrouver la paix qui lui échappe toujours à nouveau. Et malgré tous ses efforts, par des préceptes, des règles, des styles de vie, sa religion, il est incapable de revenir à sa situation paradisiaque. On ne peut pas recréer le paradis sur terre. L'homme guéri par Jésus n'incarnait-il pas les conditions misérables de l'humanité ? Il était lié, il était dans les ténèbres et le silence était assourdissant pour lui. Il n'y avait rien. Normalement, il devrait être libre. Il est lié par un démon. Il devait voir, il est aveugle. Il devait parler et entendre, il est muet. C'est le fruit de la division orchestrée par Satan. Tout cela découle de cette désobéissance des premiers parents, de l'obéissance à Satan plutôt qu'à Dieu. Le problème des pharisiens, ils ont construit un système. Eh bien, que s'ils sont honnêtes, ils reconnaissent qu'ils ne progressent pas beaucoup vers la perfection à laquelle ils aspirent. Leur orgueil les empêche de recevoir le salut que Dieu leur a envoyé et dont ils peuvent constater la perfection, la puissance en Jésus. Ils voulaient un Messie pour Israël, sans la croix, sans la reconnaissance de leur péché, de leur perdition, sans leur remise en question. Devant les hommes, eux, ils ont une certaine notoriété. Nicodème a dû venir de nuit vers Jésus avec ses questions. Il était obligé pour ne pas être traité de traître par ses collègues. Il fallait se cacher. Reconnaître que ce Jésus, un charpentier sans instruction, qui fait des prodiges et trouve l'approbation du peuple par son message de salut et son amour pour les pécheurs, que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver Israël, c'est trop dur pour eux. Non, c'est pas possible. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi nous, parmi vous. Voulez-vous me faire confiance et vous en remettre à moi ? Il a dit par ailleurs, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne fait pas partie du camp du diviseur. Lui, il veut ramener au Père. Celui qui lui confie sa lui, qui se place de son côté, est appelé à ressembler, à rassembler avec lui. Celui qui n'assemble pas disperse, c'est ce que nous avons lu le dernier verset. Et là, c'est la radicalité dont parlait Alexandre récemment. Jésus est radical, il faut passer par moi. Il n'y a pas d'autre solution. Vos efforts ne suffisent pas, il faut passer par moi. Il faut reconnaître que je suis le Fils envoyé, que je suis le chemin et qu'il n'y en a pas d'autre. Les autres religions ont été créées, mais ne peuvent pas sauver. On peut promettre des choses et on s'enlise de nouveau. Pour retrouver l'harmonie, la paix avec Dieu, il faut faire confiance au réparateur de brèches. C'est comme ça que Dieu parle en Ésaïe 58 au verset 12. Il est le réparateur de brèches. Il y a des brèches dans nos vies, il y a des brèches dans les pays, il y a des brèches dans les villes et dans les familles. Et Jésus est venu en tant que réparateur, pas diviseur. Abandonner les sacrifices religieux, nos valeurs héritées par nos pères, peuvent être bonnes, mais elles ne sauvent pas. Nous pouvons avoir de bons préceptes, et c'est bien, mais ces valeurs ne nous sauvent pas. Il faut passer par la croix. Apprenons de Jésus, aimons nos contemporains, pas seulement les frères et sœurs. Et dans un pays divisé au point de ne plus être gouvernable à cause des prétentions de chacun, vivons notre devoir d'enfant du Seigneur, pour que la lumière du monde soit encore visible. Il n'y a que l'Église qui puisse encore refléter la lumière du monde. Et il faut relever que Dieu a permis des divisions au cours de l'histoire. Quand les hommes voulaient lui prendre la place sur son trône, construisant une tour qui va jusqu'au ciel, dans Genèse 11, on va y aller nous-mêmes. Et puis, comme ça, on n'a plus besoin de lui. Je me souviens, j'en ai déjà parlé, sur le mur de Berlin, côté Est, il y avait une grosse affiche où un communiste, avec un marteau, une scie, il grimpe l'échelle. D'abord, en dessous, il y a déjà les débris des pays capitalistes. Et il dit, le gars, il y a une bulle au-dessus qui dit, « Jetzt bist du dran !» Maintenant, à ton tour, on va te chercher là-haut. On va en finir avec toi. Quelle prétention. Il y a eu Babel, il y a eu le schisme à cause de la désobéissance de Salomon. C'était catastrophique. À peine quelques années auparavant, on a dédicacé le temple, on a fait la fête, c'était formidable. Et là, Dieu a permis, a même nommé quelqu'un qui allait conduire au schisme pour que 10 tribus quittent Judas et s'installe à part, parce que personne ne demandait plus l'avis du Seigneur. Il est dit, je n'ai pas retrouvé la référence, il peut envoyer de puissantes erreurs si l'homme s'obstine. Gewaltige Irrtümer, il est dit dans la Bible en allemand. Dieu peut envoyer des erreurs si l'homme s'obstine à être contre lui pour que il se précipite encore plus bas, peut-être pour que quelqu'un puisse encore ouvrir les yeux. Si on s'obstine à suivre nos propres plans, on ne se laisse pas saisir par le salut. Et parfois même religieusement, même évangéliquement, on peut continuer à vouloir suivre notre plan plutôt que de saisir le vrai salut. On a besoin de cette main de Christ. Et pour conclure, j'ai cette prière que notre assemblée soit un lieu où l'amour surpasse les différences. Il y a des différences entre nous. On n'est pas tous les mêmes briques. On est des pierres taillées, rugueuses. Que notre assemblée soit un lieu où l'amour surpasse les différences, où le pardon et la grâce soient des signes solides contre les divisions. C'est tellement facile de trouver des sujets de discorde. Et prions que Dieu nous garde de cela et nous donne l'humilité. Ce n'est pas nous qui sommes les garants du futur de l'Église. Laissons l'Esprit agir et que l'Esprit ait la main dessus. Bien sûr, il y a des responsabilités, mais ne nous agrippons pas à nos convictions propres, humaines. Agrippons-nous aux convictions que nous donne l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est ce que Hans a partagé dimanche dernier. C'est Jean-Baptiste qui le disait. Il faut que l'Église diminue aussi dans ses prétentions, que le Seigneur croisse au milieu de nous. C'est la seule bonne croissance. Amen. Prions encore. Père, toi, tu connais nos cœurs et tu sais que nous avons chacun en nous une partie d'esprit de pharisien, Seigneur. Nous voulons, oui, que nos règles soient respectées, que ce qui s'est toujours fait soit respecté, mais nous te demandons que ton esprit agisse parmi nous pour que nous regardions à toi, que nous nous laissions conduire par toi. Tu vois tout ce que notre monde est en train de vivre, donne-nous d'être ce sel et cette lumière et de dispenser encore, Seigneur, gratuitement ton amour. Amen.